Rethink. React.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Dans le dernier épisode, je vous ai parlé des low-tech avec le français Jacques Tibéry. Et aujourd'hui, on va parler d'un atelier des sensibilisations qui a vu sa naissance en France, mais qui aujourd'hui s'est étendu sur tous les continents. On va parler de la fresque du climat, un atelier des sensibilisations au changement climatique. Peut-être que vous en avez entendu parler. Pour la première fois, je fais un entretien à 5. Mes invités sont membres de l'association La Fresque du Climat Suisse, comme moi. Et oui, je suis aussi fresqueuse, animatrice et formatrice de l'atelier. Et vous savez, vous pouvez le devenir aussi, si ça vous fait envie. Mais peut-être que vous vous demandez, mais c'est quoi ? La fresque du climat, c'est un atelier des 3 heures. 3 heures après lesquelles on ne ressort pas comme on est entré. Un ou une animatrice formée vous guide. L'atelier commence avec un jeu des cartes, assez visuel. D'un côté, des images ou des graphiques, de l'autre, un texte explicatif. Chacun et chacune détient une partie de l'information. Et ensemble, vous construisez le tableau du changement climatique. On échange, on se met d'accord, on apprend, on se trompe et on passe un chouette moment de collaboration. Cette phase de réflexion est l'une des clés du succès de cet atelier, car vous découvrez par vous-même les principales causes et conséquences du changement climatique. Ensuite, il y a une phase dédiée à la créativité, une autre aux émotions, et enfin une discussion sur les ordres des grandeurs et les leviers d'action. Cet atelier a été inventé par l'ingénieur français Cédric Rangenbach, basé sur les données des rapports scientifiques du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Si tout cela vous semble encore flou, ne vous inquiétez pas. Je vous laisse toutes les références en description de l'épisode pour approfondir. Cet atelier a une histoire incroyable et a connu un développement exponentiel. Il est présent dans plus de 150 pays, traduit en plus de 45 langues et a touché plus de 1,5 million de personnes. Dingue! Je vous laisse maintenant écouter Florian Auberçon, Ludovic Kaspersky, Laura Champion et Jérôme Castella. On parlera de la création de l'association suisse, des apports pédagogiques de la fresque du climat, des retours d'expérience et de comment elle peut accompagner les entreprises et les organisations. Avant de vous laisser, un petit rappel, une des meilleures façons de soutenir le podcast est de le partager. Maintenant oui, bonne écoute et merci.
En 2015, du coup, Cédric Rangenbach a initié la logique de la fresque du climat en testant ça avec ses élèves. Donc, il a pris des graphiques du GIEC et puis il s'est dit, tiens, ça marche bien d'un point de vue pédagogique pour que mes interlocuteurs comprennent de quoi il s'agit, comprennent les rapports du GIEC. La méthodologie de la fresque du climat s'est développée avec les années, avec certaines personnes qui ont apporté un peu d'éléments sur l'intelligence émotionnelle, sur la prise d'action, etc. Et puis, assez rapidement, il y a eu une rentrée climat dans un lycée en France, donc il a fallu trouver beaucoup d'animateurs d'un coup pour 900 élèves. Et c'est là où, en fait, Cédric a commencé à prendre le rôle de formateur. Donc, il a formé plein de nouveaux animateuristes en 2 semaines. Et puis, 900 élèves ont été fresqués. Alors, ils avaient 4 tables, 5 tables à animer d'un coup. C'était assez extraordinaire, cet événement. Et finalement, la logique après, c'était comment est-ce qu'on passe vraiment à l'échelle ? Cet outil marche, comment est-ce qu'on passe à l'échelle ? Alors, il a fallu réfléchir. On passe peut-être sous une licence, on la rend accessible, donc la licence actuelle, comme elle est publiée sur le site de la fresque. Et puis, du coup, cette association en France, ça a été créé. Et aujourd'hui, donc, c'est une association qui agit pour l'intérêt général, qui vise tous les publics, et puis qui a une gouvernance décentralisée aussi. Et il y a eu des événements fondateurs, si je puis dire, ou qui ont permis de passer un peu à l'échelle la fresque à travers l'association française, notamment la COP à Barcelone en 2019. C'était la première COP où les animateuristes de la fresque ont participé. Et finalement, il y a eu le Covid. Et donc là, il y a eu le format en ligne qui s'est développé. Et ça aussi, c'est un vrai levier d'expansion de la fresque. On faisait tout en ligne, tous les ateliers plus grand public, etc. Tout le monde avait le temps de participer. Alors, tout le monde a participé à un atelier en ligne à la fresque. Si je puis dire tout le monde, plein de personnes. Voilà, et c'est ce que je peux dire en tout cas pour l'association française
Est-ce que, enfin, moi, je me demandais en t'écoutant, est-ce que Flo ou Jérôme ou Laura, enfin, est-ce que vous aviez découvert la fresque du climat en ligne? Ou bien, comment est-ce que vous êtes arrivé là, en fait?
Alors, j'ai découvert la fresque du climat en ligne, moi, pendant une des premières vagues de Covid, je ne sais plus laquelle. En gros, j'étais tombé sur une conférence qui vantait les mérites de cet outil de sensibilisation. Et ça faisait un moment que j'avais fait plusieurs tentatives de vulgarisation autour du changement climatique avec des approches type BD, type slide classique. Et là, en tombant sur cette approche-là, ça a fait mouche. Je me suis dit que c'était quelque chose qu'il fallait que je contribue à importer chez nous en Suisse. Alors je m'y suis mis par une formation à l'animation en ligne et puis on a organisé un événement dans le cadre d'un festival comme première. Et petit à petit, ça commençait à prendre autour de nous. Et je pensais vraiment être une des seules personnes à avoir passé cet outil en Suisse, jusqu'à tomber sur le réseau Fresque du Climat qui commençait à se structurer vraiment de manière formelle. Donc c'est assez marrant de voir cet effet justement, cette gouvernance en essaim, où on se rend compte, on pense avoir une initiative et puis finalement on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont eu les mêmes idées que nous et finalement ça se fédère et on finit par se retrouver.
Et puis toi Flo?
Pour rebondir un peu ce que Jérôme a dit, moi je suis exactement la même expérience aussi. Enfin, moi j'étais en train de me lancer comme consultant en développement durable pour les entreprises, puis j'avais contacté Barbara Chastelin, qui est une membre de la communauté très active depuis le début en Valais, puis elle m'a parlé de la fresque du climat. Au début, j'étais très sceptique, je ne voyais pas l'idée d'un jeu, enfin, je ne comprenais pas trop le truc, puis j'ai participé, et puis comme beaucoup de monde y participait, c'est l'adopter, j'ai découvert la puissance de cet outil, et puis après, même chose, j'ai commencé à prendre des initiatives de mon côté avant de me rendre compte qu'il y avait une équipe qui était en train de se structurer, puis que c'était en train de partir aussi en Suisse, et puis j'ai aussi rejoint le mouvement ensuite pour la Suisse.
Ce qu'il faut dire, en fait, c'est qu'aujourd'hui, ça avait commencé avec quelques personnes. Aujourd'hui, en 2024, il y a plus d'1,5 million de personnes qui ont été sensibilisées, dans plus de 150 pays, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, c'est assez incroyable. Et en plus, Flo, j'ai écouté, tu disais que tu étais un peu sceptique par rapport à ces jeux. Puis aujourd'hui, tu es celui qui gère quand même la nouvelle association en Suisse. La première association en dehors de la France, non, qui a été créée.
Ouais, c'est ça. Ça a été une initiative qui est arrivée suite au prix Climanow qui avait été gagné en 2022, fin 2022, si je ne me trompe pas, de 100 000 francs. Puis l'idée assez vite a été d'utiliser cet argent pour rémunérer une personne pour coordonner au niveau de la Suisse. Il y a une autre personne qui a fait ce travail avant moi. Ensuite, j'ai vu une annonce pour ce poste-là sur LinkedIn. J'ai sauté dessus parce que je me rendais compte que c'était un truc potentiellement énorme. Et puis, j'avais l'impression que, vu mon background, j'étais peut-être la bonne personne pour ça. Et j'ai eu beaucoup de chance d'être pris pour ce poste-là. Et puis, c'est un truc magnifique, en fait, de faire partie d'une communauté comme celle-ci qui est en train de grandir. On a 1300 personnes qui ont été formées en Suisse à l'animation de la fresque du climat.
1300 personnes qui ont été formées à l'animation. Parce qu'en fait, il faut l'expliquer. Je pense que celles et ceux qui nous écoutent peut-être ne comprennent pas trop. Ce sont donc des personnes qui peuvent animer à leur tour une fresque du climat, un atelier fresque du climat. Mais en total, il y a plus de 20 000 personnes qui ont participé à une fresque du climat en Suisse, non?
Mais oui, c'est ça. C'est, on va dire plus de 20 000 personnes, effectivement. Et du coup, 1300 personnes qui ont pris part à des formations qui sont capables de dupliquer cet effet, de dupliquer les ateliers d'elles-mêmes, de leur propre initiative. Et de ça, dans tous les milieux, en fait. Dans leur entreprise, dans leur organisation, dans leur association, etc. En fait, il a fallu qu'on fasse un petit peu un travail de, OK, qui on est? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Quelle énergie on a aussi? Et ça, c'était vraiment une contribution de tous et toutes. Il a fallu qu'on fasse un peu nos preuves aussi. Et du coup, comme tu as mentionné, Florian, ce prix Spotlight 2021, je dois quand même mentionner qu'on est premier, la fresque du climat, elle est, donc Climate Fresque est le premier, la première structure qui a bénéficié de cette bourse, cette bourse en Suisse, les premiers gagnants. Et c'était vraiment un événement déclencheur de la suite aussi, puisqu'on avait un plan et maintenant il fallait le réaliser. Voilà. Donc, c'était vraiment une belle émulation pour la communauté. Et puis en même temps, il y a eu la COP26 où il y a eu quelques Suisses qui ont participé. Donc en fait, on a représenté un petit peu la Suisse aussi localement. Et puis après, avec la personne qui a précédé Florian, on a créé un plan. On a dit voilà, il nous faut une association en Suisse, il nous faut une structure en Suisse pour toutes ces raisons-là. Et du coup, en allant toquer à la porte de l'association française, on a apporté toutes ces raisons-là et on était assez ambitieux, donc il a fallu porter nos arguments, nos raisons, etc. Et finalement, ça s'est transformé en association et c'est aujourd'hui le cœur de l'activité de Florian et de toute la communauté des bénévoles en Suisse. Voilà, c'est un joli parcours, je trouve, à mentionner, puisque vraiment, c'est à nouveau une gouvernance décentralisée qui se met en place et puis même de nombreux pilotes aussi, comme l'a dit Florian. Voilà, avec un peu une compétition avec les autres pays aussi, puisqu'il y a dans tous les autres pays, il se passe des choses. Et du coup, nous, on aura toujours envie d'être les premiers. Une bonne compétition, si je puis dire. Avoir le plus d'animateurs, le plus d'initiatives, une structure la plus saine possible, la plus durable possible économiquement.
Compétition, mais aussi coopération, en fait.
Voilà.
Et je pense que c'est vraiment une valeur ajoutée qui a beaucoup de poids. Je pensais, en fait, du coup, les personnes qui composent cette association, en fait, ces bénévoles et les professionnels aussi qui sont au sein de cette association, ce sont vraiment des personnes des profils hyper variés. Laura, on en a parlé un petit peu avant. Je ne sais pas si tu as envie quand même de donner un petit peu ton retour. En plus, tu as vu hier à la fresque géante de Lausanne beaucoup de profils différents.
Oui, en effet, c'est ce qu'on se disait hier en voyant tous ces profils très différents qui amènent des cultures, des parcours professionnels, des formations et des façons d'animer qui sont très variées. Il y a une vraie richesse et une grande diversité dans cette communauté avec une très belle énergie. Donc, on a pu voir hier dans cet événement à Lausanne. Et puis, je voulais en profiter pour partager quelques retours des participants de cet événement. Parmi ce qu'on a eu, quelqu'un qui nous dit, voilà, c'était une vraie prise de conscience très intéressante, top animation et maintenant place à l'action. Et un autre qui nous dit, toutes les explications étaient très claires et une manière de procéder très stimulante. Je repars avec de jolies idées. Voilà, c'était aussi pour partager un tout petit retour sur cet événement hier qui a rassemblé à la fois la communauté et des participants à une fresque grand public à Lausanne. Et donc ça fait partie des événements que la communauté en Suisse met en place régulièrement.
Il y a une vraie émulation qui se crée à travers cette communauté. Il y a des compétences extraordinaires, une diversité vraiment fantastique, plein de gens de plein de backgrounds différents qui travaillent ensemble parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement c'est un outil qui marche, c'est un outil qui transforme. C'est vraiment beau de voir toutes ces initiatives qui partent dans tous les sens. Mais après, c'est juste un peu le rôle du coordinateur d'essayer de soutenir là où c'est possible, puis de recadrer un petit peu certaines fois, mais de laisser un maximum la communauté oser tenter des expériences comme celle de la fresque géante de Lausanne, justement.
Puis du coup, ce qui m'amène en fait à penser le côté pédagogique. Pourquoi ça marche en fait? Pourquoi on est arrivé en 4 ans à plus de 150 pays?
Il y a effectivement ce côté décentralisé qui joue. C'est OK, c'est un atelier, il est là. Bon, bah, la seule demande qu'on a envers les animateurs, c'est respecter la licence et puis après, éventuellement remplir le compteur, parce que c'est un peu l'œuvre commune. Enfin, en tout cas, ce qui permet de mesurer l'impact de l'œuvre commune. C'est un outil qui se base sur la science, le GIEC, qui est un consensus international, le premier consensus scientifique de cette taille, d'une part, et c'est ça qui fait, on va dire, aussi, avec cet aspect de neutralité politique, et puis ça s'applique à tout le monde de la même façon, ça a vraiment un effet duplicateur, que peu importe la culture. Après, aujourd'hui, ça se duplique dans beaucoup de pays. Mais il faut bien garder en tête que il y a des challenges culturels dans chacun des pays qui requièrent parfois une adaptation, qui requièrent parfois des ajustements dans la façon d'animer, dans le message à faire passer, etc. Et de toute façon, et je pense qu'il faut que chaque animateur doit avoir bien ça en tête, c'est l'intention, demain, j'anime un atelier. C'est quoi mon intention? Qu'est-ce que je veux faire? Quel est le message que je veux faire passer? Et où est-ce que je veux emmener mes participants? Je vais leur apporter cette information ou ces informations, ces ordres de grandeur. Quelle est mon intention avec ces ordres de grandeur? Où est-ce que je veux les emmener? Voilà.
Et la question, c'est quel message clé je veux faire ressortir de mon atelier, en fait? De où partent mes participants et où je vais les emmener pour qu'à la sortie de l'atelier, ils soient prêts à passer à l'étape d'après en termes de plan d'action et de changement dans le cadre d'une action climat. Et puis, on peut aussi se dire, à force de recevoir de l'information sur le changement climatique, qu'on sait les choses, que c'est bon, on a compris. Et ça découle d'un phénomène qui, c'est un biais de la compréhension profonde, je crois, sauf erreur, que c'est celui-là. C'est quand on entend beaucoup parler d'un phénomène, on pense qu'on l'a compris. Ce que va faire la fraise du climat, en fait, c'est remettre toutes les informations, les bribes d'informations que vous recevez par différents canaux dans une narration qui fait sens. Et c'est même utile pour les personnes qui sont très, très, très spécialisées dans certaines thématiques. Moi, je me souviens que ça peut être intimidant quand on fait des animations, de se retrouver, quand on fait le tour de présentation au début, quelqu'un va dire, par exemple, bah, moi, je suis glaciologue, ou là, on va se dire, oula, là, on va être contrôlé, donc il va pas falloir qu'on dise de bêtises. Ça peut mettre la pression, mais en fait, la participation de ce genre de personnes est une vraie plus-value pour l'atelier, parce qu'au moment où on va parler des classes, des cartes qui sont sa thématique principale, cette personne va amener énormément de connaissances très 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 pointues que nous, à la facilitation, on serait incapable d'amener. Et par contre, pour que ce soit donnant-donnant quand même, pour ces personnes, elles ont un intérêt souvent qu'elles expriment à participer à une fraise du climat, c'est que ça va leur permettre de dézoomer de leur thématique principale et prendre conscience de l'ensemble de la big picture, en fait, dans laquelle s'inscrit leur thématique de spécialisation.
Ça me rappelle aussi une personne qui était à une des COP récemment et qui nous avait dit qu'elle a eu plusieurs climatologues qui sont arrêtés devant la table de la fresque. Alors évidemment, elle était tétanisée en disant... Et en fait, ils lui ont dit « Mais non, c'est magnifique parce qu'on a rarement l'occasion de voir tout sur la même table. » Donc voilà, c'était encore un partage allant dans le même sens.
Et j'irais même plus loin en disant, d'un point de vue pédagogique, en fait, l'idée de mettre des cartes en lien, de cause à effet, etc., ça marche pour beaucoup, beaucoup d'autres sujets. On parle des problématiques environnementales, mais la fresque a inspiré beaucoup d'autres ateliers, ce qu'on appelle les fresques amis ou les Friends Workshop en anglais aussi. Et du coup, pour la biodiversité, hein, qui est un sujet environnemental clair, mais aussi pour d'autres sujets de société, donc les problématiques de durabilité sociale. Et en fait, on pourrait imaginer, pour expliciter telle ou telle complexité dans une situation géopolitique, par exemple, de ramener cette pédagogie aussi, d'utiliser cette pédagogie dans tout un tas de cas. Voilà. Mm-hmm. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être réutilisé à souhait dans le futur.
C'est vraiment un exemple à suivre qui marche, en fait, pour vulgariser des choses qui sont complexes ou même dans les écoles. Par exemple, maintenant, on est impliqué dans cette semaine du climat dans le canton de Fribourg et puis... T'as des profs qui disent, bah, durant toute l'année, on a travaillé sur tout ce qui est réchauffement climatique. Et maintenant, enfin, on peut mettre tout sur la table. Et c'est un peu une sorte de résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ça permet de, voilà, rafraîchir un peu les connaissances qu'on a travaillées durant l'année.
Oui, on peut vraiment comprendre la fresque du climat. On peut vraiment la percevoir de deux manières différentes, à deux échelons différents, deux couches différentes, en fait. Vous avez la couche scientifique, la thématique dont la fresque du climat parle, c'est le changement climatique basé sur les rapports du GIEC. Donc là, on peut clairement marketer l'outil comme un outil science-based parce qu'on a ce consensus scientifique qui fait référence et qui est extrêmement solide derrière. Après, la fresque en soi, la méthode qui consiste à distribuer des cartes pour faire une énorme mind map d'une thématique, ça, c'est aussi une invention qu'a amené la fresque du climat, mais c'est purement une méthode pédagogique. Et maintenant, elle se décline sur tout un tas de thématiques complexes. Par contre, on ne pourra pas, pour chacune des fresques qui émergent, garantir le même niveau de scientificité que celle du climat, simplement parce qu'on n'a pas, pour toutes les thématiques, un travail scientifique d'une qualité telle que le rapport du GIEC. Donc, il y a la fresque de la biodiversité, qu'on peut recommander à un niveau équivalent de scientificité, parce que derrière, il y a les rapports de l'IPBES. Ensuite, toutes les autres fresques, sans dévaloriser leur qualité ou leur intérêt, n'ont pas cet aspect, sont plus difficilement une garantie de qualité scientifique. Par contre, la méthode pédagogique, elle, est très efficace.
J'irais même plus loin en disant qu'effectivement, il y a le contenu scientifique qui est du coup gouverné par un corpus international de scientifiques qui a une certaine gouvernance avec une certaine diversité, qui tente d'être le plus représentatif de toutes les pensées scientifiques du monde entier. Alors, c'est pas idéal, mais au moins, quand on va sur le site de chacune des entités, les points de vue exposés sont effectivement, enfin, tentent d'être les plus variés et diverses.
Je me disais, en fait, tu as parlé avant, Ludo, par rapport à ce jeu, hein, la fresque du climat peut être utilisée par le grand public, par des adolescents, on peut le faire en entreprise, dans des associations. On pourrait mentionner quelques exemples des réussites ou des mises en marche dans des entreprises suite à avoir fait la fresque du climat. Alors, je pense que c'est difficile de dire dans quelle mesure la fresque du climat a été un catalyseur ou elle s'est imbriquée dans ce qui était déjà une démarche et puis elle a juste donné le petit coup de pouce qui était nécessaire pour motiver les équipes.
C'est
peut-être.
Un débat qu'on a depuis le début, ou une question qu'on essaie de traiter depuis le début, c'est quel est l'impact de la fresque en termes de réduction d'émissions de CO2 directe d'une fresque en tant que telle. Il y a eu différentes tentatives. Même en Suisse, grâce à Climano, on avait essayé de créer des statistiques ou via un modèle, etc. C'est possible de faire ça, mais est-ce que c'est utile? En fait, c'est un ingrédient qui est nécessaire, mais clairement pas suffisant. C'est très difficile de mesurer l'impact de cet ingrédient. Si je puis dire, le goût qu'on peut attribuer à cet ingrédient dans la grande recette de la transition. Et finalement, en fait, c'est un ingrédient indispensable si on veut embarquer, en tout cas dans le cadre d'une organisation, d'une entreprise, le plus grand nombre dans et on va dire d'une façon un petit peu décentralisée dans ce voyage que telle ou telle organisation va débuter, va démarrer ou a déjà lancé, mais rencontre peut-être quelques problèmes pour passer à l'échelle, pour collecter plus d'initiatives, pour mettre en capacité le plus grand nombre. Voilà. Donc, je dirais dur de mesurer, dur d'évaluer l'impact ou la contribution de la fresque au global, mais finalement, un ingrédient nécessaire dans tous les cas. Voilà.
Alors, ce que dit Ludo m'inspire un petit exemple qui arrive souvent quand on est dans la discussion avant les ateliers avec des clients, où on va nous demander, en fait, qu'est-ce que ça va nous apporter d'un point de vue quantitatif. C'est jamais posé comme ça, mais si je caricaturais, c'est presque qu'on attendrait une réponse où on va dire ça va vous permettre d'économiser tant et tant de tonnes de CO2. Et ce qui est assez logique en soi, parce que quand on est dans une approche stratégie climatique pour une organisation, on va d'abord quantifier des émissions de CO2 équivalent, puis ensuite le but c'est de les réduire. Donc on est dans une approche purement quantitative où on fixe des indicateurs clés. La fresque du climat, elle se situe plutôt sur un plan qualitatif. Et elle va accompagner les changements nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs. En gros, on peut voir une organisation et son plan climat sous différents plans, sur différents plans. Vous avez le plan très technique. Quels moyens on va déployer pour abattre tant et tant de tonnes de CO2, quels moyens techniques on va mettre en œuvre, quels produits on va substituer, etc., etc. Et puis après, par-dessus ça, vous avez un accompagnement au changement. Parce que tout ça représente un énorme changement pour les organisations. Et cet accompagnement au changement, il peut être porté grâce à une bonne campagne de sensibilisation avec des outils du type la fresque du climat. Et c'est là où ce genre d'outils deviennent nécessaires.
Et un facteur à prendre en compte, c'est aussi le système de management de l'entreprise. Celui-ci peut être plus ou moins compatible avec cet accompagnement au changement.
Oui, par exemple, on va parler de quel système de rémunération, quel manager a quels objectifs, comment on reporte tel et tel succès, comment on suit les projets. Ça, c'est la structure, en dur dans les organigrammes, dans les processus de l'entreprise. Et par-dessus ça, vous avez encore une couche purement humaine qui est motivée par cette thématique ou qui est moins motivée. Et vous devez vraiment articuler les trois pour mettre en place une réelle stratégie. Et pour ça, la fresque du climat, je dirais, sert d'ingrédient clé qui permet de faire le lien entre ces trois plans. Et puis, finalement, dans l'approche, dans les organisations, il y a différents types d'approches qui peuvent fonctionner. Ça peut être fait de manière très centralisée, où vous vous faites venir des animateurs et animatrices externes qui vont garantir un certain niveau de qualité dans les workshops et qui auront cette casquette d'expert ou experte externe qui fait que par tel type de public, ces personnes seront peut-être plus écoutées. Par contre, il y a aussi un intérêt à former des gens à l'intérieur de l'organisation pour ensuite leur déléguer l'animation envers les collègues, ce qui n'est pas l'exercice le plus facile, hein, mais si ça prend bien, ça a l'avantage d'amener une personne du métier qui va parler aux autres personnes du métier avec le jargon de leur environnement de travail. Et puis, on a aussi deux autres choix possibles. Soit vous faites des ateliers ponctuels, ciblés, avec un développement plutôt organique, ou alors on peut marquer le coup avec un gros événement autour de la sensibilisation au changement climatique. On ferme une partie de l'entreprise ou toute l'entreprise une matinée, on fait l'atelier. Ça a l'avantage, ça, de lancer une dynamique, en fait. Il y a un événement qui marque le début d'une stratégie climat, d'une mise en action dans une organisation.
Si je peux partager quelque chose, un retour de fresque grand public qui m'avait beaucoup marqué, c'était avec Philippe à Genève. On a quelqu'un qui est revenu nous voir 3 mois après avoir participé à une fresque grand public pour nous dire, voilà, moi je suis architecte, j'ai 30 ans, eh bien je viens de donner ma démission, je me suis inscrite dans un parcours de formation d'un an parce que les immeubles que je construisais avant, eh bien ils avaient tout faux et maintenant je vais faire des immeubles différemment. Donc là, on s'est dit, magnifique, Philippe, ta fresque a donné un bel impact ce jour-là. Et puis aussi en entreprise ou dans d'autres organisations, ce qu'on entend régulièrement quand on a des retours, c'est maintenant tout le monde est sur la même page. Tout le monde a entendu la même chose le même jour. Il y en a plus qui pourront dire je savais pas, moi je suis pas au courant, moi je suis pas d'accord. Tout le monde a été vraiment, on leur a proposé la même chose en même temps. Ensuite, les décisions qu'ils vont prendre vont être des choix politiques au sens large du mot politique, mais au moins ils ont eu cette information délivrée à tous. Et puis, on va dire un bénéfice collatéral qui n'est pas le but premier, mais qu'on rencontre souvent aussi, c'est des entreprises qui nous disent, ça a eu un rôle de team building auquel on s'attendait pas. Ça a vraiment fédéré les équipes, ça a mis des gens qui d'habitude ne travaillaient pas ensemble à réfléchir sur les mêmes problèmes, et ça a été très riche pour l'entreprise. Voilà.
Oui, des départements différents qui se retrouvent dans des mêmes équipes. Et en fait, il y a le jeu, et après, il y a la part du débrief, non, qu'on appelle. Et puis, je pense que c'est là, en fait, à ce moment-là, où ils doivent travailler sur des questions un peu plus concrètes qui leur sont propres à leur entreprise. Et puis là, tu as plusieurs compétences de plusieurs départements qui se mettent ensemble pour arriver au but. Et puis ça, c'est hyper riche, en fait.
Oui, une des jolies expériences que j'ai eues, c'était dans une école hôtelière en Suisse. Et bien dans une équipe de fresques, j'avais à la fois la direction et les gens qui sortent les poubelles tous les matins et qui ont et dit qu'ils les pesaient, les poubelles, et qu'elles pesaient 300 kilos de nourriture jetée tous les jours. En pleine fresque avec la direction. Enfin, je peux dire que c'était un joli moment de partage de visions différentes et d'angles différents qui, j'espère, a porté ses fruits.
Espérons.
Je pense que c'est à travers des témoignages aussi qu'on ressent le plus d'impact. Des témoignages de « j'ai fait une fresque à ma famille, à mes amis ». Et c'est en fait à l'échelle individuelle qu'un fresqueur peut, en parlant à d'autres personnes, à d'autres fresqueurs, en partageant ses expériences, qu'on mesure, qu'on sent l'impact arriver. C'est dur de mesurer, mais en fait, c'est un impact psychologique, c'est un impact, c'est quelque chose d'un peu inconscient. C'est une pierre à l'édifice. On la voit, quand on regarde un bâtiment qui fait 300 mètres de haut, eh bien, on voit pas la petite pierre qui est en bas à gauche ou la base de pierre, eh ben, qui est à la hauteur de 5 mètres. Eh ben, en fait, c'est un élément essentiel, quoi. Et c'est à chaque fresqueur de dire, voilà, j'ai fresqué, et en fait, de voir, de témoigner des changements qu'il voit apparaître autour de lui, dans sa communauté, dans sa famille, dans son organisation, etc. Et c'est comme ça que dans 10 ans, on pourra en reparler et se dire, ah ouais, en fait, ça a beaucoup changé. Regarder un petit peu dans le rétro et se dire, ça a vraiment changé et de façon fondamentale. La façon dont on voit les choses.
Merci pour cette vision optimiste, Ludo. On en a besoin. Le changement pour un monde plus souhaitable, juste et beau est possible. On y croit. Bon, le temps y passe. Ludo et Florian, vous devez nous quitter. Déjà, merci d'avoir pris le temps pour cet échange. Peut-être avant de partir, un dernier partage. Et sinon, qui d'entre vous a envie de nous partager quelque chose que la fresque du climat a amené dans votre vie ou quelque chose pour inspirer des nouveaux animateurs, des nouvelles animatrices de la fresque du climat ou pour inspirer n'importe quelle personne qui nous écoute.
En fait, je pense qu'il faut pas avoir peur en tant qu'animateur à franchir certaines barrières psychologiques qu'on a avec les personnes qui nous entourent et les inviter ces personnes-là à aussi rentrer dans embrasser le changement. Et en fait, une façon très simple d'embrasser le changement, c'est de devenir animateur aussi. Moi, je parle dans ma famille, donc on est sept au total, sept frères et sœurs, et je vous laisse deviner combien d'entre eux sont animateurs de la fresque, animateurice. Plus de la moitié, donc voilà. Et ils ont tous animé leur première fresque et ils sont tous sur leur chemin de transition. Et en fait, c'est intéressant de voir le changement donc passer à travers ces personnes-là. Et donc, je suis assez proche d'elles aussi pour me rendre compte qu'effectivement, elles passent par toutes les étapes. Et je pense que du coup, ça s'applique de la même façon avec toutes les personnes qu'on vient former quand on est formateur et ou que l'on convainc à passer l'étape de devient aussi porteur du message. Donc ça, c'est... Parce que en fait, chaque animateur n'est pas juste un animateur. À la fin, ça devient vraiment un agent du changement. Et j'ai même vu ça aussi dans mon entreprise où il y a tout un tas de personnes qui sont formées et ces personnes-là, elles se mettent en capacité de faire passer le message et d'aller activer le changement. Elles veulent toujours aller plus loin. C'est incrémental. C'est une roue à cliquer, quoi. On avance de cette façon-là. Ok, je porte le message. Demain, qu'est-ce que je fais? Je vais changer un peu mes habitudes à moi. Et après-demain, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller changer ce qui se passe autour de moi. Et c'est ça, en fait, la clé. C'est qu'à la fin, on devrait tous être animateurs, si je puis dire. Animateuriste, pardon.
Tout le monde. Ok, très bien, Ludo. Et j'ai juste une question. C'est toi qui as amené tes frères et sœurs à devenir animateurs ou animatrice?
Je leur ai fait la fresque. Et après, j'en ai embêté quelques-unes pour dire « Ah, tu pourrais devenir ». Puis après, non, il y en a qui se sont motivées d'elles-mêmes. Elles ont eu l'opportunité à travers leur boulot. Voilà. Et même ma mère aussi, à 72 ans, elle est animatrice.
Superbe. OK.
Alors, cette fois, contrairement à Ludo, moi, ça m'a permis de complètement déserter le terrain familial où c'est sûrement mon cas particulier, hein. Chaque environnement familial est différent. Là, il peut y avoir tellement d'affect que c'est plus simple en fait d'aller parler à des gens qu'on ne connaît pas du changement climatique. Et ce genre d'outils vous permet de faire ça et de vous déresponsabiliser, de toujours mettre le sujet sur la table quand c'est pas le moment, par exemple à Noël ou
oui.
Dans n'importe quel repas de famille où la situation ne se prête pas pour parler de thématiques complexes. Là, vous allez le faire en dehors avec des gens que vous ne connaissez pas forcément, vous n'avez pas ce lien d'affect et du coup, ça fonctionne peut-être mieux ou de manière plus facile. Et après, encore une fois, ça dépend de chaque cadre familial. Ouais, du coup, grâce à la fresque, j'ai arrêté d'embêter ma famille avec les actions personnelles et puis les dernières news sur le changement climatique, etc., etc. Je leur laisse faire leur parcours de leur côté.
Ah, je vois très bien. J'avoue que je ne m'engage pas non plus dans mon cercle intime, sauf mon mari et mes enfants, évidemment. Et encore là, j'accepte des façons différentes de faire. En gros, j'essaye de laisser les autres faire leur chemin le plus possible sans jugement et je mets mon énergie à influencer dans mon champ d'action pro, chacun son truc. Bon, Manoui, pour finir, Laura et Jérôme, est-ce que vous avez des lectures à nous conseiller? Peut-être une lecture qui a stimulé vos réflexions, une lecture qui vous a fait avancer dans votre changement professionnel ou personnel?
Je viens de te copier un bouquin dans le chat et que j'ai trouvé extrêmement intéressant. À la fois, ça se lit très facilement parce que c'est plein d'humour, mais c'est très scientifique et ça parle des grandes extinctions précédentes, comment on les a comprises et qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et je trouve que c'est un livre de mise en perspective très agréable.
Donc, ok, cette planète n'est pas très sûre.
Ouais, je vous le recommande vraiment.
Très bien. À vous qui nous écoutez, vous savez, hein, comme toujours, je mets le titre de ce livre ainsi que les autres références qui ont été discutées dans l'entretien d'aujourd'hui dans la description de l'épisode. Et puis toi, Jérôme ?
Alors moi, je recommanderais le livre Our Shared Storm, qui est malheureusement qu'en anglais. Et celui-là raconte ces cinq nouvelles de science-fiction d'anticipation qui se passe en 2050 et quelques, à la COP 60, sauf erreur. Et dans les 5 SSP de référence du GIEC, donc SSP 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 mondes totalement différents, un monde qui s'empare du champ, de la thématique du changement climatique et qui va vers une atténuation en accord avec les accords de Paris, et un monde qui a l'opposé exact, où les températures augmentent, où la consommation continue à augmenter, basée sur les énergies fossiles, et 3 autres mondes intermédiaires, avec chaque fois les mêmes personnages, mais qui ont eu des vies totalement différentes dans ces différents scénarios. Et ça permet de se familiariser avec cette approche prospective de scénario, en montrant le champ des possibles qui nous est présenté, en fait, vis-à-vis de cette thématique. Et sinon, deuxième recommandation, il y a la BD, alors là, je ne l'ai pas sous les yeux, et j'espère bien la citer, GIEC Horizon Climatique, de Xavier Henrion, et je ne sais plus l'autrice, l'experte scientifique, qui ont vraiment fait un travail d'interview de scientifiques, de contributeurs au rapport du GIEC pour raconter en bande dessinée le rapport du GIEC. Et elle a l'intérêt de ne pas s'arrêter qu'au groupe 1, donc de ne pas poser que le constat, mais de parler aussi de l'adaptation et de l'atténuation, donc plutôt quelles actions on peut mettre en place derrière.
Ok, je suis allée voir, hein. Il ne faut pas laisser les femmes dans l'ombre, sans critique, hein. Je suis la première à oublier les prénoms des gens, donc voilà. Et elle s'appelle Iris Amatadian. Donc, GIEC Horizon Climatique, des Iris Amatadian et Xavier Henrion. Ah oui, et puis un dernier livre que Jérôme m'avait conseillé, c'est un livre en fait qui s'appelle, c'est en anglais, Impossible Conversations ou How to Have Impossible Conversations by Peter Boghossian, quelque chose comme ça. Enfin, c'est un livre pour apprendre à savoir comment débattre. Et apparemment, c'est une méthodologie pour éviter de s'engueuler. Donc voilà, si vous avez besoin de ça et que vous parlez l'anglais, n'hésitez pas d'aller demander dans la librairie de votre village, ville ou coin. Voilà.
Super, bah merci beaucoup à toi. Merci Jérôme.
Merci infiniment à Laura Champion, Florian Auberçon, Jérôme Castella et Ludovic Kaspersky pour ces discussions riches sur la fresque du climat et pour toutes vos idées. Et merci à vous qui nous écoutez. J'espère que vous avez apprécié l'entretien d'aujourd'hui. Je trouve que c'était chouette aussi de voir que malgré le fait d'être mobilisés pour la même cause, de partager les mêmes valeurs, que nous pouvons avoir des avis différents, attaquer les situations de différentes manières et que c'est tout aussi bien. Pour les prochains épisodes, j'ai sur la planche des entretiens tout aussi intéressants avec des entrepreneurs qui s'impliquent pour changer les choses en Suisse et aussi en France. Certains d'entre vous, vous m'avez demandé de faire des épisodes pour vous parler un peu plus sur mes expériences professionnelles. J'y réfléchis et je vous en ferai certainement un bientôt. En tout cas, restez à l'écoute sur LinkedIn, mais pas trop connecté quand même. Profitez du beau temps, de lire, d'être dehors, peut-être de mettre les mains dans le jardin et bien sûr de passer du temps avec vos personnes chères. Et prenez soin de vous et à bientôt. Rethink. React.